Bonjour Magda.
Ça y est, je suis inscrite en thèse. Concrètement, par quoi je commence?
Ah bah quelle bonne question et je pense que beaucoup de doctorants se la posent. On se sent parfois un peu perdu quand on commence en thèse. Alors souvent on conseille de commencer par de la lecture. L'encadrant donne quelques titres hein, dans le premier rendez-vous qu'on a. Il conseille des lectures et parfois même il demande aux doctorants débutants de carrément faire une revue de littérature pour commencer, ce qui peut parfois d'ailleurs dérouter le doctorant. C'est techniquement, c'est pas évident une revue de littérature. En tout cas, en début de thèse, on entre dans une phase d'exploration. Donc exploration, ça veut dire qu'on va ouvrir des pistes. On va vraiment aller là où notre curiosité nous porte. Donc autant en termes de lecture, c'est-à-dire de lecture d'autres chercheurs, d'auteurs actuels en fait, avec qui on va aller, entre guillemets, discuter dans notre thèse, de qui on va s'inspirer, mais aussi exploration de notre terrain, de notre futur terrain. On peut faire une première exploration, même si c'est pas notre méthode absolument parfaite, mais déjà commencer à explorer le terrain. Donc voilà, lecture et exploration, ça va être les premières étapes, en fait. La question est, comment ne pas se perdre? Parce que quand on explore, évidemment, bien sûr, le risque, c'est de se perdre. On ouvre des pistes, oui, mais comment savoir comment revenir à son chemin et quel est le chemin? Alors là, le conseil que j'aimerais amener, c'est avant d'explorer et avant tout acte exploratoire, listez les questions qui vous intéressent spécifiquement. C'est-à-dire vraiment, prenez le temps d'avoir un document ouvert où vous listez des questions qui viennent de votre curiosité, vraiment des questions que vous vous posez. Prenez le temps de les écrire et d'écrire pourquoi elles vous intéressent, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez là-dedans. C'est important de formuler ces questions parce qu'elles permettent de revenir à son propre point de vue, à sa propre curiosité. Et à partir de là, bah vous vous lancez dans l'exploration, qui peut être la lecture d'un ouvrage ou le fait de parler avec certaines personnes sur votre terrain. Et ensuite, en revenant, vous vous demanderez si cette exploration, elle vous a éloigné de vos questions initiales. Ou si elle vous a, au contraire, elle a nourri ces questions initiales, et donc vous allez les repenser, ces questions. Donc soit les reformuler, soit vous rendre compte que votre terrain, pour l'instant, votre exploration, elle est mal partie, elle vous éloigne, donc il faut la recentrer. En tout cas, vous vous poserez les bonnes questions par rapport à votre curiosité, à votre élan, pour voir si vous vous perdez ou pas. Donc c'est important aussi de ne pas faire que de l'exploration, mais de revenir à des moments de synthèse et de réflexion vraiment très régulièrement.
Pourquoi est-il crucial de définir une question de recherche précise dès le début de la thèse?
Exactement pour cette même raison, en fait, pour pas se perdre. C'est-à-dire que toute recherche commence par une question, même d'un point de vue épistémologique. En fait, tu peux pas regarder l'entièreté de la réalité comme ça d'un coup. Tu es obligé de regarder un morceau de réalité et lequel tu vas regarder, ben, celui sur lequel tu te poses une question. Donc c'est pour ça qu'il faut formuler cette question. Donc vous allez, en fait, vous, doctorant, interroger la réalité. Donc la question, il faut la formuler en se sentant assez libre parce que franchement, elle va bouger tout au long de la thèse. Elle va être assez mobile. Donc, formulez la question, vous vous y tenez pendant quelques semaines, mais après, vous pouvez la repenser. Donc, c'est à la fois un guide, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de complètement rigide. Mais au début, effectivement, on formule une question de départ qui va vraiment nous guider. On va essayer d'aller au bout de cette question, de voir si on peut y répondre ou s'il faut la modifier. Donc, la question, elle guide. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, vous explorez un truc, ensuite vous revenez à votre question, vous vous demandez si vous vous êtes trop éloigné ou si vous avez apporté des éléments de réponse. Et c'est ça qui permet de ne pas se perdre. Et puis la question, c'est aussi comme des lunettes à travers lesquelles on regarde le monde. C'est vraiment quelles lunettes je prends. En fait, tu choisis un point de vue. C'est absolument crucial, en fait. Tu peux pas voir quelque chose sur lequel tu ne t'es pas posé de question. Donc la formulation de la question, c'est le choix d'un point de vue. Je vais regarder cette réalité et l'interroger depuis tel questionnement. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, en posant une question, on commence à construire son objet d'étude, petit à petit. Et presque sans s'en rendre compte, de façon assez fluide, en posant des questions, on construit un objet. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que c'est très important de passer par cette étape-là.
Tu as parlé des risques de se disperser et un des outils pour éviter de se perdre, c'est d'établir un calendrier. comment planifier un calendrier de travail réaliste ?
Ah, ça c'est très difficile. J'ai envie de te retourner la question, Megda. Est-ce que toi, tu as toujours tenu tes objectifs pendant ta thèse ?
Non, c'est peut-être pour ça que je l'ai mise en stand-by pour une période indéterminée.
En fait, il est très difficile de tenir ses objectifs parce que la plupart du temps, moi, ce que j'observe, c'est qu'on n'est pas réaliste. Et moi-même, oui. Hein, quand j'ai fait ma thèse, par exemple, je me disais, bah, j'aurai un an pour la rédaction, puis finalement, j'ai eu 2 ans pour la rédaction. Oui. Donc, c'est pour te dire que vraiment, des fois, c'est du simple au double. On explose ses objectifs. Bon, ça, c'est peut-être pas ce que les auditeurs avaient envie d'entendre, mais c'est important de parler de ce sujet parce que ça crée énormément de frustration et d'incompréhension, en fait, pendant la thèse. Vraiment, c'est vrai que c'est difficile de tenir ses objectifs. Alors, pourquoi? Donc, parce qu'on est beaucoup trop optimiste, en fait. On part de ce qu'on souhaiterait. On part de ce qu'on voudrait.
Oui.
En fait, il faut, comme tu dis dans ta question, être réaliste. Et le réalisme, il vient de la connaissance de soi d'abord. Ben, réellement, concrètement, à quelle vitesse j'avance? Et pourquoi j'avance à cette vitesse? Peut-être que j'ai besoin de temps pour telle étape, ou je suis plus rapide sur telle étape. Mais en fait, concrètement, actuellement, j'avance à telle vitesse. Donc, quand je pose mon objectif, c'est cette vitesse-là que je dois prendre en compte. C'est vraiment un immense effort de lucidité qu'il faut faire pour poser ses objectifs. Et je vois que, en travaillant avec les doctorants, je vois que c'est quelque chose qui est toujours à refaire, en fait. On est toujours tenté de remettre des objectifs trop optimistes qui vont finir par nous plomber le moral parce qu'on va pas y arriver. Donc à chaque fois, c'est « Ok, cet objectif-là, en fait, il n'était pas bien posé. La prochaine fois, je ferai attention qu'il y a tel obstacle, telle étape qui prend plus de temps, etc. » Donc, bien se connaître, bien s'observer et puis prendre en compte les péripéties de la vie. Parce qu'en fait, la vie continue pendant la thèse, je vous l'annonce. Oui. Elle s'est arrêtée pour votre thèse. Donc, bien, vous allez peut-être tomber malade, avoir des soucis de tel ou tel ordre, ou des joies de tel ou tel ordre. On peut aussi tomber amoureux ou avoir des enfants, etc. C'est les péripéties de la vie qui continuent et ça va impacter les objectifs, on va pas se mentir. Donc, c'est pour ça que quand on pose des objectifs, il faut pas partir d'un idéal, il faut poser un calendrier qui soit souple et surtout qui préserve notre énergie. C'est ça qui est important. Donc, il faut quand même se poser un calendrier pour se motiver, se mettre des échéances, d'accord, mais qu'on puisse avoir une respiration dans ce calendrier, qu'on puisse aussi préserver notre énergie et préserver notre vie à côté.
Oui, on le dit jamais assez, hein, la thèse est un marathon et pas un sprint, et c'est important d'apporter de la fluidité et de la flexibilité pendant ce parcours. On oui. dit souvent qu'il faut installer un cadre méthodologique. Qu'est-ce qu'on entend par méthodologie ?
Ah, ça aussi, c'est une question qui parfois cause beaucoup de soucis aux doctorants parce que je trouve que le terme même méthodologie est pas très clair en fait. Qu'est-ce que c'est une méthodologie ? Il y a plusieurs façons de l'entendre. D'abord, on peut se dire c'est simplement la méthode de travail en fait. C'est comment on s'y prend. Donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer là, c'est sur ces dernières minutes d'échange avec toi. C'est-à-dire comment je m'y prends pour explorer, pour poser une question de recherche, etc. Donc, elle n'est pas donnée en amont de la thèse, c'est-à-dire que personne ne nous dit « bon, tu feras ça comme ça, comme ça, comme ça ». Ou alors, si parfois on donne des grandes étapes, par exemple, le directeur dit « faites d'abord la revue de littérature, puis ensuite on verra le terrain, puis ensuite on verra le plan ». Mais c'est des grandes étapes, et à l'intérieur de ces étapes, on ne donne pas la méthode. Pourquoi on la donne pas? Parce qu'elle est à construire. C'est-à-dire qu'en fait, elle est variable, cette méthode. Elle est variable selon les individus, selon les disciplines, selon les thèmes, selon les objets d'étude, selon les affinités. En fait, elle est vraiment à construire. Donc, à chaque étape où vous vous demandez, mince, mais comment je vais m'y prendre? Eh bien, allez lire des témoignages, lire des ouvrages peut-être de méthode, ok. Ça va vous donner des grandes lignes, des grands repères, mais vous allez voir que ça ne va pas être complètement, complètement ça pour vous. Vous allez devoir le rebricoler. Donc, il va falloir se dire, en fait, moi, je préfère faire de telle façon. Je construis ma propre façon de faire. Hein, sur la méthodologie, par exemple, pour pour écrire, peut-être on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas une seule façon d'écrire. Il y a beaucoup de façons d'écrire sa thèse, différentes, je dirais autant que de doctorants. Donc en fait, on va essayer de s'inspirer des autres, mais ensuite regarder ses propres besoins et systématiser. Et ça, c'est vrai pour toute étape de la thèse. On essaye de comprendre les grandes règles de base en SHS, et ensuite on voit qu'est-ce qui convient le mieux à notre sujet, et on essaye de systématiser. Donc il y a vraiment une construction de la méthode, que ce soit la méthode de travail, la méthode de recueil, la méthode de lecture. La méthode de lecture, c'est pareil. Ne faites pas des fiches de lecture comme quand on était en première année d'université avec exactement le même cadre pour tous les ouvrages. Là, c'est beaucoup trop rigide, en fait, ça. Plutôt, dites-vous, il y a des ouvrages qui sont beaucoup plus importants pour moi, donc je vais y passer beaucoup plus de temps, je vais aller extraire des extraits, etc. Puis il y a d'autres ouvrages que je lis plus rapidement, dans ce cas-là je ferai juste un résumé de 3 lignes que je mets dans mon classeur. En fait, il faut vraiment tout le temps s'adapter. Et c'est à vous, il n'y a personne qui va vous le dire, en fait, c'est vraiment à vous d'être créatif sur la méthode.
Tu as parlé de la méthodologie de recueil, peux-tu nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors toute thèse repose sur un recueil de données venant de la réalité qu'on observe. Donc une thèse n'est pas un essai, c'est un travail de recherche. Donc la différence avec un essai, c'est qu'on va s'appuyer sur des données venant de la réalité. Alors selon votre discipline, quelles sont ces données ? En sociologie, ce sont par exemple des données venant d'entretiens, d'observations, récits de vie, etc., éventuellement de statistiques. En droit, ce sont les, donc c'est la doctrine, la jurisprudence, et en histoire, c'est les archives, peu importe. En tout cas, il y a toujours, en fait, un moyen d'aller observer la réalité que l'on doit observer. Donc, on va aller extraire des échantillons de cette réalité pour pouvoir argumenter, en fait, étayer notre argumentation. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, là, c'est pareil. On va acquérir une première connaissance des outils que nous offre notre discipline. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître un minimum. Si on est sociologue, on va aller s'interroger sur les méthodes qualitatives, on va lire quelques ouvrages de référence là-dessus. Ou quantitatives, si on préfère les méthodes quantitatives. Mais une fois qu'on a lu ça, il ne faut pas être obsédé par l'idée de trouver la bonne méthode qui aurait déjà été mise au point et qui correspond à notre thèse. Parce que cette méthode-là n'existe pas. En réalité, vous allez lire les grandes lignes de méthodologie de votre discipline, et ensuite avec ça, vous allez construire votre propre méthode. C'est-à-dire, il va y avoir un petit peu de bricolage. Par exemple, peut-être avec un exemple, ça sera plus clair. Donc, vous avez envie de faire, au début de l'entretien semi-directif en sociologie avec vos enquêtés, puis vous vous rendez compte que vos enquêtés, ben, ils disent pas tout. Ils cachent des choses, ou ils arrivent pas, ou peut-être ils les cachent pas, mais juste ils arrivent pas à formuler. Et que pour vous, c'est plus facile d'aller, si vous travaillez par exemple sur le milieu urbain, vous promener avec vos enquêtés et observer avec eux et parler avec eux lors de promenades. Ben voilà, vous venez de créer une méthode. Alors, vous l'avez probablement pas entièrement créée, il y a certainement quelqu'un d'autre qui l'a fait avant vous, donc vous allez chercher ça et vous allez non pas copier entièrement cette personne qui l'a fait avant vous, mais la citer, vous en inspirer et recréer votre propre méthode. Donc c'est vraiment ça sur la méthodologie de recueil. Ne vous attendez pas à avoir une méthodologie toute faite qui vous attend quelque part, mais renseignez-vous bien et ensuite fabriquez celle qui correspond vraiment, qui est la plus pertinente pour répondre à votre question de recherche.
Enfin, j'aimerais te poser une question sur le cadre théorique. On nous parle souvent de cadre théorique quand on commence une thèse. Concrètement, qu'est-ce que c'est et comment choisir un cadre adapté à sa recherche ?
Eh bien écoute, Megda, c'est... Je vais reprendre les grandes lignes de ce que je viens de dire, parce que c'est exactement aussi valable pour le cadre théorique. C'est pareil, ne pensez pas qu'il y a quelque part un cadre théorique préexistant qui correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Il n'existe pas. Par contre, il existe des concepts qui sont très utiles pour vous, parfois même des concepts qui fonctionnent en système, hein, dont vous pouvez vraiment vous inspirer, qui vous seront très utiles. Mais en début de thèse, on croit que ça va suffire, puis qu'on va les appliquer, et puis que tout ira bien. Et en fin de thèse, on se rend compte qu'en fait, il faut revenir sur ces concepts qui viennent d'autres chercheurs, et les remodeler, avoir une réflexion dessus, les redéfinir. Donc c'est pareil, le cadre théorique, en réalité, se construit. Il se bricole, mais vraiment dans un sens positif du mot bricolage. Donc, il y a des recombinaisons, des recréations. Donc, le cadre, en fait, il ne se choisit pas. Il se forme. On le fabrique. On reformule des idées. On s'inspire des autres chercheurs. On comprend les règles du jeu. Et ensuite, on le forge petit à petit. C'est normal que ça prenne des années. Donc, on avance avec un cadre provisoire. Et puis, quand on a besoin, on réfléchit, on le remodifie. C'est la réalité hein, de notre travail de terrain qui va venir le re-questionner. Donc, il y a un aller-retour entre le terrain et le cadre conceptuel.
Merci beaucoup, Émilie.
Avec grand plaisir, Megda.
À très bientôt.
À bientôt.